Le journal présenté par Stéphane Genest.
Bonjour à toutes et à tous. La 57e édition du Salon de l'agriculture a commencé ce matin. Emmanuel Macron déambule actuellement dans les allées de la plus grande ferme de France. Interpellé par les agriculteurs, le président de la République tente de les rassurer. Nous l'entendrons dans cette édition. Le début de la fin pour la centrale nucléaire de Fessenheim, le réacteur numéro 1, a été mis à l'arrêt cette nuit. Le second sera lui arrêté à la fin du mois de juin. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette centrale avec Audrey Dumain. Le coronavirus qui n'en finit pas de faire des victimes, un deuxième décès a été annoncé en Italie. Le pays fait face tant bien que mal à cette épidémie, nous retrouverons notre correspondant sur place. Et enfin, dans une dizaine de minutes, vous avez rendez-vous avec l'économie. La bulle éco de ce samedi est consacrée à l'intelligence artificielle. C'est le rendez-vous annuel du monde agricole. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin et comme le veut la tradition, c'est le président de la République qui a inauguré l'événement. Le chef de l'État, dès son arrivée à la porte de Versailles à Paris, a été interpellé par de nombreux agriculteurs. Il en a profité pour leur exprimer son soutien, le tout dans un contexte de remise en cause d'une partie de leurs pratiques et d'inquiétude sur la pérennité de la PAC, la politique agricole commune. Écoutez cet échange entre un agriculteur et Emmanuel Macron.
Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président. Non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps. Entendez-la. Voilà, on a des agriculteurs qui sont dehors. Vous serez interpellés dans le salon, monsieur le président. Il nous faut des réponses absolument aujourd'hui. Autrement, mais je suis désolé, il va y avoir une cassure entre vous et nous, et j'en suis désolé. Donc respectez tout ça, s'il vous plaît.
Je sais ce que vous dites et je le partage. Et rassurez-vous, notre président le sait, je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon. Hein.
Mais j'espère, monsieur le président.
On a lancé les états généraux, la loi Egalim, et aux côtés, y compris de l'élevage ou de toutes les filières qui ont souffert. Et j'y serai à longueur d'année pour les valeurs que vous évoquiez, parce que je sais ce que ça représente. C'est vous qui nourrissez depuis des décennies les Françaises et les Français. Et on a besoin, moi je veux une agriculture forte parce que je veux savoir d'où vient ce qu'on mange, et je pense que les Françaises et les Français aussi.
Un échange recueilli au Salon de l'agriculture par Cyril Graziani. Et comme on vient de l'entendre, les agriculteurs vivent une crise identitaire profonde. Le thème du salon cette année, c'est l'agriculture vous tend les bras, une façon d'inviter les jeunes à s'installer en agriculture, mais aussi d'inviter les citoyens à soutenir l'agriculture française, pour leurs achats notamment, car le sentiment d'une fracture entre un monde agricole minoritaire et le reste de la population est bel et bien réel. Anne Orchouin a rencontré à ce propos l'historien des mondes ruraux, Pierre Cornu.
Loi issue des états généraux de l'alimentation qui ne tient pas ses promesses, revenus toujours insuffisants et PAC 2020 qui peine à se dessiner clairement. Les sujets d'inquiétude sont nombreux pour le monde agricole qui expérimente aussi une autre peur, celle de la disparition. Enfin, nombreux sont les agriculteurs qui vivent très mal ce qu'ils appellent l'agribashing, c'est-à-dire les critiques venues de l'extérieur. Pierre Cornu est spécialiste des mondes agricoles et de leurs changements.
C'est une vraie peur dans le monde professionnel agricole. L'idée qu'on veuille liquider ce monde-là, il y a des discours radicaux, militants, qui visent à dire que le monde agricole serait trop profondément attaché à la logique productiviste et qu'on ne peut rien faire, qu'il y aurait une fatalité, qu'on ne peut pas agir.
Selon Pierre Cornu, ça n'est pas la première crise d'ampleur pour le monde agricole qui peut prouver sa résilience pour peu que les pouvoirs publics y mettent les moyens.
On voit que, par certains indices, la société aujourd'hui est beaucoup plus réactive, elle est capable de changer bien plus rapidement de pratiques. Et les agriculteurs, contrairement aux idées reçues, sont capables aussi de changer de modèle pourvu qu'ils aient un tout petit peu de trésorerie, d'appui technique et de perspective, que ça ne soit pas justement un effondrement pour eux. Il y a des choses qui sont pensables, il y a un espace des possibles qui demanderait toutefois, non pas de baisser les exigences, mais de trouver des modalités de débat public moins violentes, moins dans l'affrontement. Voilà.
Un débat public qui pour l'instant s'apparente à un dialogue de sourds, le Salon de l'agriculture peut-être, veulent croire ses organisateurs, le moment où la discussion peut éclore plus sereinement.
Anne Orchouin. C'est la doyenne des centrales nucléaires françaises encore en activité. Fessenheim n'a désormais plus qu'un réacteur en fonction. Le premier a été mis à l'arrêt dans la nuit. Le second, lui, sera arrêté le 30 juin prochain. Le démantèlement de la centrale entière devrait commencer à l'horizon 2025 et se poursuivre au moins jusqu'en 2040. Une décision qui fait suite à la promesse de François Hollande de fermer la centrale alsacienne il y a 8 ans. D'ici 2035, le gouvernement souhaite réduire la part du nucléaire en France de 75 à 50%. Pour cela, 14 des 58 réacteurs du parc actuel devront être mis à l'arrêt d'ici à cette date. Un projet totalement contraire à celui des débuts de Fessenheim, dont le premier réacteur a été mis en service le 7 mars 1977. À l'époque, le nucléaire avait toute sa place dans l'Hexagone pour les politiques au pouvoir, mais les militants écologistes engageaient déjà une lutte contre le nucléaire. Audrey Dumas.
Oui, dès ses premiers jours, Fessenheim divise. Pour le gouvernement, elle est un symbole de modernité, signe d'indépendance énergétique. Mais en Alsace, le nucléaire inquiète également. Bernard Laponche, ex-ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, se souvient.
Il n'y avait pas eu d'accident déjà, et il y avait quand même une défiance par rapport à la radioactivité, parce qu'on allait fabriquer des produits, les déchets radioactifs, qui sont très dangereux. Donc il fallait montrer aux gens que la radioactivité, c'était pas dangereux.
Et pour les écologistes, la lutte antinucléaire commence donc dès les années 70. Des milliers de personnes se rassemblent contre la centrale alsacienne et alors que le chantier touche à sa fin, 7 militants entament 25 jours de jeûne. Parmi eux, un étudiant, Rémi Verdet.
On n'avait pas donné de limite à ce jeûne. C'était très sympathique parce qu'il y avait tout le temps des gens qui venaient nous voir pour nous soutenir. Il y avait une amie qui venait nous faire des tisanes. C'était la seule chose qu'on buvait. C'était important de se battre, surtout à ce moment-là, avant que la centrale ne démarre.
Des militants qui réclament des garanties de sécurité de la centrale. Que faire si un accident grave survenait ? Mais les pouvoirs publics assurent eux qu'il n'y a pas de danger. Une centrale nucléaire n'explose pas, souligne sur France Inter le préfet du Haut-Rhin le jour de la mise en service.
On voudrait faire croire à l'opinion que la centrale nucléaire se rapproche de l'atome de la bombe atomique. Une centrale nucléaire n'explose pas. Il peut y avoir des désordres par accident mécanique. Il faut se prémunir contre ces accidents et prendre le maximum de précautions.
Fessenheim, ce n'est que le début. La suite, on la connaît. 57 réacteurs plus tard, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Et l'arrêt du premier réacteur de la centrale alsacienne ne résout pas le problème des déchets radioactifs, conclut Rémi Verdet.
Et vous pouvez retrouver ce voyage dans l'histoire avec le premier jour de la centrale nucléaire de Fessenheim sur notre site internet franceculture.fr. 4 personnes ont été interpellées en Gironde et en Charente-Maritime pour association de malfaiteurs terroristes et financement du terrorisme. Elles ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête sur des collectes de fonds du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une structure qui est classée sur la liste des organisations terroristes par la Turquie mais aussi par de nombreux pays, dont la France et les États-Unis. Le coronavirus qui continue de faire des victimes. Ce matin, on a appris la mort d'une deuxième personne en Italie. Il s'agit d'une femme qui vivait dans le nord du pays et qui était hospitalisée depuis plusieurs jours. Plus d'une dizaine de villes de la région ont été placées en semi-confinement depuis hier. Un premier décès en Italie, celui d'un homme de 78 ans, a également été annoncé dans la soirée. Les précisions de notre correspondant en Italie, Bruce de Galzin.
Aucun d'eux ne revenait de Chine. Tous les deux étaient hospitalisés depuis une dizaine de jours. Le premier patient mort du coronavirus est un homme de 78 ans, hospitalisé en Vénétie au sud de Padoue, dans un petit hôpital où 600 personnes doivent être examinées, car l'origine de la contamination n'est pas connue. La deuxième victime est une femme qui a succombé au virus en Lombardie. Son cas est lié, selon les médias italiens, au premier patient infecté en milieu de semaine à Cordogno, au sud-est de Milan, dont l'état de santé est stable. Cet homme de 38 ans serait à l'origine de la contagion de plusieurs personnes. La presse italienne rapporte qu'il a dîné début février avec un collègue qui avait séjourné en Chine, mais qui est aujourd'hui en pleine santé. L'homme de 38 ans a contaminé sa femme ainsi que des clients d'un bar de Cordogno. Des soignants de l'hôpital sont également positifs. La ville et 9 autres villes à proximité ont fermé la plupart des lieux publics pour éviter la propagation du virus.
Au total, plus de 2200 personnes sont mortes après avoir contracté le coronavirus. En Iran, un nouveau cas a été annoncé parmi 10 nouveaux dans le pays. En Iran, justement, où les citoyens étaient appelés à se rendre aux urnes hier pour élire les députés du Majlis, l'assemblée consultative du pays. La fermeture des bureaux de vote pour les législatives a été retardée par 4 fois afin de permettre à davantage de personnes de participer. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran. Il n'y a pas de chiffre officiel concernant la participation, mais il s'annonce bas. Et Valérie, la tendance semble confirmer la victoire des conservateurs.
En effet, des résultats partiels officiels donnent la liste des conservateurs en tête à Téhéran. Ils pourraient remporter les 30 sièges de la capitale iranienne et éliminer totalement les réformateurs qui avaient remporté ces mêmes sièges il y a 4 ans. Un responsable a par ailleurs laissé entendre que la participation serait de l'ordre de 50% des inscrits. Ce serait moins qu'en 2016 et en 2012, ce qui jouerait en faveur de la frange la plus dure du régime. On sait qu'un grand nombre nombre de candidats modérés et réformateurs ont été disqualifiés de ces élections par le Conseil des gardiens de la Constitution, proche des ultras. En conséquence, beaucoup d'Iraniens proches des réformateurs ont décidé de ne pas se rendre aux urnes. Alors si la victoire des conservateurs devait se confirmer, cela signerait la fin de la politique d'ouverture menée par le président Rouhani. C'est lui qui a permis la signature en 2015 de l'accord sur le nucléaire. Or, Hassan Rouhani a essuyé beaucoup de critiques après que les États-Unis ont imposé des sanctions draconiennes il y a 2 ans. La majorité des Iraniens ont un réel ressentiment à l'égard de leurs dirigeants car ils attendaient des retombées économiques. Enfin, il faut rappeler que l'élection présidentielle aura lieu en 2021 en Iran et si les ultra-conservateurs contrôlent le Parlement, eh bien, ça leur donnera un avantage certain pour l'année prochaine.
Merci beaucoup Valérie Crova, envoyée spéciale à Téhéran pour France Culture, avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Midi 40 sur France Culture.
La bulle économique, Catherine Pétillon.
La bulle économique, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré donc à l'économie. Et aujourd'hui, Catherine Pétillon s'intéresse à l'intelligence artificielle.
Ça peut modifier beaucoup de notre vie quotidienne. Et donc c'est la raison pour laquelle la Commission a décidé de proposer un livre blanc pour préserver les valeurs essentielles qui fondent l'Union européenne et qui doivent être inclus, y compris dans les algorithmes qui pourront accompagner notre vie dans les mois, dans les années qui viennent, à travers l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle est désormais considérée comme hautement stratégique. C'est ce que rappelait sur notre antenne Thierry Breton, nouveau commissaire européen au marché intérieur. Et dans le développement de ce secteur, l'Europe espère se démarquer comme elle l'a fait avec les données personnelles grâce au règlement européen qui les protège, le RGPD. C'est dans ce but que la Commission européenne a présenté cette semaine un livre blanc, prélude aux avancées législatives voulu par sa présidente et qu'elle espère désormais d'ici la fin de l'année. La Commission compte encadrer les usages risqués de l'intelligence artificielle sans pour autant en interroger le principe. Même plus, elle veut résolument soutenir le développement économique du secteur. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est l'ampleur de l'enjeu économique qu'elle représente en raison des plus grandes capacités à collecter les données. Car c'est là-dessus que tout repose. Les intelligences artificielles, ce sont tous ces systèmes qui observent, analysent et interprètent massivement des données. Vous y avez probablement déjà recours au quotidien, dès que vous utilisez un site marchand, des réseaux sociaux, une application GPS ou encore un assistant vocal. Et le nombre de tâches automatisables ne cesse de se démultiplier. Chaque jour, un nouvel usage apparaît. L'idée générale de la Commission européenne, c'est de réguler de manière proportionnelle au risque. Plus l'utilisation sera dangereuse pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, plus les règles seront strictes. 4 secteurs critiques sont définis, la santé, les transports, la police et la justice. Sur l'enjeu essentiel de la reconnaissance faciale, nous en parlions dans une précédente bulle, Bruxelles a finalement renoncé à un moratoire comme elle l'avait pourtant envisagé durant un temps. Les questions posées par l'intelligence artificielle sont autant économiques que juridiques et éthiques. Comment un algorithme est-il conçu? Quelles données sont utilisées par la machine pour apprendre? L'Europe veut définir des obligations juridiques, éthiques et techniques, c'est-à-dire que ce soit explicable, non piratable, etc. Alors cela peut paraître théorique et abstrait, et à certains égards ce livre blanc l'est, puisque toute la question c'est comment ces grands principes seront traduits dans les secteurs spécifiques, mais les conséquences pour chacun de nous sont en fait très concrètes. Quelle sera la transparence des décisions prises par une machine qui fait du recrutement, ou si demain quelqu'un se voit refuser un prêt bancaire ou en cas d'accident de voiture autonome, comment rendre des comptes sur les décisions prises? L'intelligence artificielle bouleverse nos modes de vie et interactions sociales. Pour autant, l'idée d'un scénario unique de développement présenté comme inéluctable est non seulement fausse, mais a tendance à déresponsabiliser et à masquer l'ensemble de la chaîne sur laquelle repose chacune des applications. Car pour faire fonctionner les systèmes, on les entraîne en leur donnant des milliers, voire des millions d'exemples. Concrètement, des images, des textes, des chiffres, des sons. Et c'est grâce à cela qu'ils peuvent ensuite reconnaître une phrase, un visage, une intonation, etc. Autrement dit, l'intelligence artificielle porte en réalité mal son nom. Derrière ces dispositifs, il y a des humains. Ceux qui conçoivent les règles d'analyse des données et ceux qui entraînent les dispositifs en leur fournissant des informations. Des travailleurs, en général, peu ou pas rémunérés.
Donc là, par exemple, on est sur donc cette tâche de comparaison d'un mot-clé et d'une recherche d'une personne. Et on a la moutarde de Dijon et moutarde de Dijon. Et on nous demande de savoir si finalement ça a le même sens pour la recherche Google. On aide l'algorithme à s'améliorer. Voilà.
Ils sont des centaines de milliers à faire comme cette femme, interrogée dans Invisible, une éloquente série documentaire actuellement en ligne sur le site de France Télé. Des travailleurs du clic qui effectuent des micro-tâches, comme ici comparer des images ou des phrases, le tout pour un micro-revenu. C'est aussi sur cette nouvelle chaîne de travail, humaine, le plus souvent invisibilisée, que reposent les intelligences artificielles. Reste à savoir quelle place cela prendra dans la consultation publique européenne lancée pour 3 mois sur le sujet.
Merci Catherine Pétillon. La bulle économique est également disponible sur notre site franceculture.fr. La météo de cet après-midi sera plutôt douce. Le nord-ouest sera sous les nuages avec quelques averses à prévoir. Partout ailleurs, du soleil et de très belles éclaircies. 12h45 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.